Jésus est la lumière du monde. Amen.
Amen.
C'était le thème de ma dernière prédication et je poursuis ce matin sur la même chose, sur le même thème. Jésus, la lumière du monde qui brille, c'est pas simplement un thème pour l'été parce que Jésus brille en toute saison,
Amen.
En toute saison de notre vie. Oui, la dernière fois, nous nous sommes penchés sur l'association vie et lumière. La lumière, c'est la vie. Et maintenant, nous allons voir comment Jésus apporte la lumière dans les ténèbres. Nous allons voir comment Jésus guérit de l'aveuglement. Alors, nous allons étudier un épisode, justement, où Jésus guérit un aveugle né. C'est dans l'Évangile selon Jean, chapitre 9. J'aime bien la richesse de cet épisode, les péripéties, les arguments, les confusions. Je vais lire tout le chapitre. L'Évangile selon Jean, chapitre 9. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui posèrent cette question. « Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ?» Jésus répondit, « Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. » Amen. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, « Va et lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie « envoyé ». Il y alla, se lava et s'en retourna, voyant clair. Ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant disaient, « N'est-ce pas celui qui se tenait assis et qui mendiait ?» Les uns disaient, « C'est lui ». D'autres disaient, « Mais non, mais il lui ressemble ». Et lui-même disait, « C'est moi !» Ils lui dirent donc, « Comment tes yeux ont-ils été ouverts ?» Il répondit, « L'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue et a oint mes yeux et m'a dit, « Va au réservoir de Siloé et lave-toi. » J'y suis allé et je me suis lavé et j'ai pu voir. » Ils lui dirent, « Où est cet homme ?» Il répondit, « Je ne sais. » Ils menèrent vers les pharisiens celui qui avait été aveugle. Or, c'était un jour du sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. De nouveau, les pharisiens lui demandèrent comment il avait pu voir. Et il leur dit, « Il a appliqué de la boue sur mes yeux, je me suis lavé et je vois. » Sur quoi quelques-uns des pharisiens dirent, « Cet homme ne vient pas de Dieu. » car il n'observe pas le sabbat. D'autres dirent, « Comment un homme pécheur peut-il faire de tels miracles ?» Et il y eut une division parmi eux. Et ils dirent encore à l'aveugle, « Toi, que dis-tu de lui sur ce qu'il t'a ouvert les yeux ?» Il répondit, « C'est un prophète. » Les Juifs ne crurent point qu'il avait été aveugle et qu'il avait pu voir, jusqu'à ce qu'ils aient fait venir ses parents. Et ils interrogèrent en disant, « Est-ce là votre fils que vous dites être né aveugle? Comment donc voit-il maintenant ?» Ses parents répondirent, « Nous savons que c'est notre fils, et qu'il est né aveugle, mais comment il voit maintenant, ou qui lui a ouvert les yeux, c'est ce que nous ne savons. » Interrogez-le lui-même, il a de l'âge, il parlera de ce qui le concerne. Ses parents dirent cela parce qu'ils craignaient les Juifs. Car les Juifs avaient déjà convenu que si quelqu'un reconnaissait Jésus pour le Christ, il serait exclu de la synagogue. C'est pourquoi ses parents dirent « Il a de l'âge, interrogez-le lui-même. » Les pharisiens appelèrent une seconde fois l'homme qui avait été aveugle et lui dirent « Donne gloire à Dieu, nous savons que cet homme est un pécheur. » Il répondit « S'il est un pécheur, je ne sais. Je sais une chose, c'est ce que j'étais aveugle et que maintenant je vois. » Ils lui dirent « Que t'a-t-il fait? Comment t'a-t-il ouvert les yeux ?» Il leur répondit « Je vous l'ai déjà dit. » Et vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous l'entendre encore? Voulez-vous aussi devenir ses disciples? Ils l'injurièrent et dirent, c'est toi qui es son disciple. Nous, nous sommes disciples de Moïse. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-ci, nous ne savons d'où il est. Cet homme leur répondit, il est étonnant que vous ne sachiez d'où il est. Et cependant, il m'a ouvert les yeux. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, il l'exauce. Jamais on n'a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle né. Si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Ils répondirent, tu es né tout entier dans le péché, et tu nous enseignes. Et ils le chassèrent. Jésus apprit qu'il l'avait chassé et l'ayant rencontré, il lui dit, « Crois-tu au Fils de Dieu ?» Il répondit, « Et qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui ?»« Tu l'as vu, lui dit Jésus, et celui qui te parle, c'est lui. » Et il dit, « Je crois, Seigneur. » Et il l'adora. Puis Jésus dit, « Je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient point voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. » Quelques pharisiens qui étaient avec lui ayant entendu ces paroles lui dirent, « Nous aussi sommes-nous aveugles ?» Jésus leur répondit, « Si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais maintenant vous dites, « Nous voyons. » Et c'est pour cela que votre péché subsiste. C'est fascinant de voir comment ce miracle, comment cette guérison génère tout un débat. C'est un débat parfois comique, parfois virulent. Et à la fin de ce débat, c'est finalement Jésus qui se tourne contre les autorités religieuses, les savants, les pharisiens, en leur disant que eux, c'était eux qui étaient pires qu'aveugles. Jésus est la lumière du monde contre l'aveuglement spirituel. Ça, c'est notre thème ce matin. C'est un thème important. Parce qu'il y a beaucoup d'aveuglement spirituel, même aujourd'hui. Ne pas comprendre, refuser de croire en Jésus, déformer le message de Jésus. C'est un fléau, l'aveuglement spirituel. Et vous connaissez sans doute l'expression, si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans la fosse. C'est Jésus qui le dit. Et que Dieu nous en garde. Par contre, vivre dans la lumière de Jésus, c'est un grand privilège. Ça a été le fil conducteur de notre présidence, de notre moment de prière, de louange. Nous vivons dans la présence de Jésus, comme nous mettons notre foi en lui. Jésus, c'est lui la vraie lumière qui peut éclairer notre esprit et conduire notre vie quand nous lui faisons confiance. Alors ce matin, nous allons nous pencher sur cet épisode et nous allons voir le piège de l'aveuglement spirituel et nous allons voir comment Jésus nous apporte sa lumière pour nous rendre la vue. Mais d'abord, le piège de l'aveuglement spirituel. Le piège, tout simplement, c'est qu'on se trompe et qu'on risque de tromper les autres. À la fin de l'épisode, Jésus résume le problème en disant que celui qui est aveugle d'esprit, c'est celui qui prétend qu'il voit, qui prétend qu'il sait, qu'il comprend. Mais en réalité, celui-là, il ne voit goutte, comme disaient les Français, il ne voit goutte. Et c'est en cela que celui qui est aveugle et qui ne le sait pas, il se condamne lui-même. Et dans cet épisode, Jésus traite d'aveugle les pharisiens. Il faut le savoir, les pharisiens étaient très instruits, très pieux, très zélés pour leur religion. Les pharisiens, c'était eux qui connaissaient le mieux les Écritures et qui avaient une grande piété. Et c'est pour cela qu'ils exerçaient une telle influence sur le peuple. C'était des autorités. Mais Jésus, quand il dit ailleurs, ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles, Jésus parlait des pharisiens. Parce que, comme nous le voyons ici, quand Jésus arrive, ce sont ces zélés pieux, ce sont eux qui pourchassent Jésus jusqu'à la mort. Alors où était leur problème? Dans cet épisode, on voit d'abord une confusion, une grande confusion. Parfois c'est comique quand ils ne savent pas est-ce que c'est l'homme qui était né aveugle, est-ce que c'est lui ou pas, est-ce que c'est vraiment lui, où est Jésus? Parfois c'est comique, mais quand on creuse un peu la confusion, c'est tragique. Jésus fait un miracle. Amen.
Amen.
Et les pharisiens disent que c'est un péché. Il y a un homme handicapé, mendiant. Jésus l'aide à sortir de sa misère. Et les pharisiens disent que Jésus dérange l'ordre social. C'est une confusion tragique. Et on voit déjà, et même aujourd'hui, cette confusion. Ce sont ceux qui sont spirituellement aveugles, confondent et mélangent les choses. Et ne pas comprenant les bases, ils confondent l'enseignement, ils confondent l'exemple. C'est un symptôme d'aveuglement spirituel qui est la confusion, et semer la confusion, c'est la manipulation. Qu'est-ce qui dérange les pharisiens dans cette histoire? C'est que Jésus a guéri le jour du sabbat. Si cela avait été un autre jour, il n'y aurait pas eu de problème. Mais heureusement ou malheureusement, Jésus guérit le jour du sabbat. D'après la loi des Juifs, le sabbat, le septième jour de la semaine, c'est une journée sacrée, un jour de repos ordonné par Dieu. Et jour de repos, on ne travaille pas. Et d'après ces pharisiens, ce qu'avait fait Jésus en faisant de la boue, en guérissant les yeux de l'homme, pour eux c'était du travail. Alors, interdit. C'était leur interprétation de la loi de Moïse. Pour les pharisiens, leur règle, surtout leur règle concernant le sabbat, prenait une importance démesurée, exagérée. Je dirais que c'est presque une obsession. Cette question, parce qu'il a guéri le jour du sabbat, et il pourchasse Jésus pour ça. C'est le deuxième symptôme de l'aveuglement spirituel, l'obsession sur un détail, sur une doctrine. Ceux qui sont aveugles spirituellement sont aveugles parce qu'il y a chez eux un arbre, une doctrine, une règle qui cache toute la forêt et le nez collé contre son arbre spirituel, collé contre sa règle, sa doctrine, ça cache la forêt. Et troisième symptôme de l'aveuglement spirituel, c'est la condamnation des autres. Cette règle est là pour que les pharisiens se donnent de l'importance, se prennent pour des chefs, et ils utilisent leur règle pour condamner Jésus, pour condamner les autres. C'est ce qui se passe ici. On voit, ça devient la condamnation, ça devient l'acharnement, verset 24. Les pharisiens appelèrent une seconde fois, garde-vue pour la deuxième fois, l'homme qui avait été aveugle, et lui dirent: donne gloire à Dieu, nous savons que cet homme est un pécheur. Et à la fin de l'entretien, qu'est-ce qu'ils disent? Toi, ils disent à l'aveugle, toi tu es né tout entier dans le péché. Ça, c'est faux et c'est méchant. Dire cela à quelqu'un, c'est méchant. Condamner les autres sur ses propres règles. C'est ça l'aveuglement spirituel. L'aveuglement spirituel, c'est une confusion. C'est une obsession. C'est la condamnation des autres. Et il faut savoir reconnaître ça pour l'éviter. Je ne vais pas dénoncer tous les mouvements, toutes les sectes qui pullulent aujourd'hui, toutes les tendances fausses qui font preuve d'aveuglement, qui pullulent aujourd'hui, parce que l'enseignement dans ce passage, c'est le problème, comme je l'ai dit, c'est être aveugle soi-même et ne pas le reconnaître. Je ne vais pas dénoncer les autres, mais je dois être conscient que moi-même, je peux être aveugle et ne pas le reconnaître. Je peux vivre dans une ambiance de culpabilisation, de honte et de peur sans reconnaître que ce n'est pas normal, ce n'est pas sain. Il y a l'autre parabole très parlante de Jésus qu'il dit dans le sermon sur la montagne. Il dit: pourquoi vois-tu dans l'œil de ton frère la paille? Tu vois ça? Et tu ne vois pas la poutre qui est dans tes yeux? Et tu vas essayer d'enlever la paille de l'œil de ton frère avec dans tes yeux des grandes poutres? C'est ça l'aveuglement. Moi j'ai un défaut visuel. J'ai un défaut visuel. C'est pas que je porte les lunettes. Mon défaut, c'est que les verres des lunettes sont souvent sales. C'est pas tous les jours que je nettoie mes verres. Je dois avoir honte de le dire, mais je le dis. Laisser les verres devenir crado pour empêcher ma vue, c'est pas bon. Alors, de la même façon, je dois laisser l'Esprit de Jésus me corriger, purifier ma vue spirituelle avec sa lumière. Alors revenons à notre histoire ce matin. Et regardons maintenant comment Jésus apporte sa lumière dans cette histoire. Au début de l'épisode, Jésus le dit clairement. Il voit dans la situation de l'homme aveugle l'occasion de manifester en lui les œuvres de Dieu. Il ne va pas condamner l'homme. Il veut que cet homme qui vit dans la misère, cet homme aveugle, mendiant, Jésus voit sa condition misérable et il veut que cet homme voit Dieu à l'œuvre dans sa vie. La lumière de Jésus commence par l'éclairage de la compassion. La compassion. Et c'est une compassion pragmatique. Si c'est en France où j'ai appris que je dois être pragmatique. Jésus agit pour sortir l'homme de sa misère. Et il adresse les problèmes tels qu'ils sont. L'homme, il a une déficience physique. Et c'est avec de la matière physique que Jésus le guérit, en faisant de la boue avec sa salive. C'est physique. Et puis, il dit à cet homme qui est inerte, dans la dépendance, puisqu'il est aveugle, il mendie, il est inerte, il ne bouge pas, il est dans la dépendance. Qu'est-ce qu'il lui dit Jésus ? Va et lave-toi dans le réservoir qui s'appelle Siloé. Mets-toi debout, bouge. Donc vous voyez comment Jésus le sort de son inertie, de sa dépendance pour qu'il fasse quelque chose. Et c'est quand l'homme change de position, quand il change de condition, que le regard des autres sur lui change. Et l'on commence à se poser des questions. Est-ce que c'est vraiment lui qui était aveugle là tout à l'heure? Était lui? C'est lui? Mais comment ses yeux ont-ils été ouverts? Où est l'homme qui a fait ça? Vous voyez la dynamique, la progression? Jésus agit avec une compassion pragmatique. Il agit, il fait un miracle. Et cela provoque une discussion où on cherche à comprendre ce qui s'est passé et qui est-ce qui a fait ce miracle. Et pour cet homme qui est guéri, cela aboutit à la découverte de Jésus. La démarche de Jésus, c'est compassion, action, découverte. Et c'est une bonne façon de suivre Jésus. C'est une bonne façon de laisser Jésus agir et nous conduire dans notre vie de disciples. Compassion. On a besoin de la compassion et on a besoin de partager cette compassion. Pour voir Dieu à l'œuvre dans notre vie, on commence par compassion. Jésus est venu pour guérir, pour sauver, pour pardonner. Il est venu pour nous sortir de notre misère individualiste. Voilà pourquoi la compassion de Jésus doit nous toucher et nous interpeller. Alors regardons ce que nous vivons ensemble. Regardons ce que nous vivons dans nos quartiers ou sur notre travail. Et cherchons à savoir qu'est-ce qu'on peut faire pour changer ça. Comme Jésus a agi, qu'est-ce que nous pouvons faire? On n'est pas appelé à faire des miracles, mais quand nous faisons notre part, Dieu il pourra faire sa part. Et les miracles, c'est sa part. Dieu ne va pas nous faire des miracles. Je ne dis pas. Pour que Dieu fasse des miracles, il faut que nous agissions par la foi. Et suite à l'action, il y a la découverte. Quand on réfléchit à ce qui s'est passé, dans les entreprises, ça s'appelle « feedback ». Debriefing. On réfléchit sur la journée, sur ce qui s'est passé. Et on se rend compte de ce que Dieu a fait. De ce que Dieu a fait en nous et avec nous. Et c'est comme cela que nous apprenons. C'est comme cela que nous grandissons dans la foi. Comme nous commençons par compassion, nous jaillissons, nous passons à l'action. Et après, il y a la découverte, la compréhension de ce que Dieu fait dans la vie. Un petit témoignage. L'écrivain chrétien Philippe Yancey, peut-être vous l'avez lu, a écrit un livre avec un docteur chrétien, Paul Brand. Ensemble, ils ont écrit un livre, en anglais malheureusement, qui n'a pas été traduit en français, mais en français, le titre serait « La douleur comme don ». La douleur comme don. Ce livre parle des effets bénéfiques de la douleur. Cela paraît contradictoire, Mais il faut savoir que le docteur Paul Brand était docteur dans un hôpital chrétien à Vellore, à Tamil Nadu, en Inde. Peut-être Jean-Paul, vous connaissez son hôpital, le Ida Scudder Memorial Hospital. Paul Brand soignait les patients atteints de la lèpre. C'était plutôt dans le XXe siècle. Et Paul, le docteur, faisait des recherches sur la maladie. Et c'est Paul Brand qui a découvert que les effets mutilants, parfois affreux, de la lèpre. Peut-être vous avez vu des photos des gens mutilés par la maladie. Mais qu'est-ce qui cause la mutilation? C'est Paul Brand qui a découvert que ces effets sont dus au fait que la peau lépreuse perd sa sensibilité au toucher. La peau lépreuse ne ressent plus rien et insensible au toucher. On devient insensible à la douleur. Ça veut dire que les personnes atteintes de la lèpre se faisaient mal sans le ressentir. Et petit à petit, les membres blessés se dégradaient parce qu'ils ne ressentaient pas la douleur. Vous voyez, le docteur Brand, il a été touché par l'extrême misère des lépreux, de ses patients. Il les soignait, il cherchait à leur rendre leur dignité avec la compassion du Christ. Et c'est ainsi qu'elle a fait cette découverte que la douleur, ça sert à quelque chose. Vous voyez, compassion pragmatique, compassion, action, découverte. Alors on va creuser un peu l'aspect découvert dans ce passage. On va retourner à l'histoire. L'homme guéri. Les pharisiens l'ont bien embêté, mais à la fin du deuxième entretien, au moins, l'homme guéri a découvert une chose sur Jésus. Il le dit dans le verset 31. Il dit, nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, il l'exauce. Jamais on n'a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle né. Si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Il a découvert cela petit à petit. Et c'est à ce moment-là où Jésus revient sur scène pour compléter sa foi. Verset 35. Jésus a appris que les pharisiens avaient chassé l'homme et l'ont rencontré. Il lui dit, « Crois-tu au Fils de Dieu ?» C'est ça sa question. Mais je pose la question d'abord, où en est-il de la question du péché? Pendant la moitié de l'épisode, on a parlé du péché. On a embêté cet homme avec cette histoire de péché. Mais quand Jésus rencontre l'homme, là-dessus, il ne dit rien. Tout le débat disparaît sous un silence. Toute la culpabilisation et toute la peur sont balayées, oubliées. Et le silence de Jésus sur ce point est d'une importance fondamentale. C'est le cœur de l'Évangile. On se rappelle la déclaration de Jean-Baptiste au début de l'évangile selon Jean. Jean-Baptiste, en voyant Jésus passer, il a dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Qui ôte, ça veut dire il fait disparaître, il enlève. Et nous l'avons célébré ce matin, nous l'avons chanté. Jésus nous enlève le poids du péché en le prenant sur lui, puisqu'il est mort sur la croix devant Dieu. Ça veut dire qu'en la présence de Jésus, le jugement, la condamnation n'ont plus de poids sur nous. Dans la présence de Jésus, le jugement et la condamnation n'ont plus de poids sur nous. Quand Jésus nous enlève nos péchés, si nous portons le fardeau du péché, nous pouvons nous approcher de lui. Nous pouvons le prier, lui confier notre vie pour qu'il nous enlève ce fardeau et qu'il nous aide à avancer avec lui, libéré. Petite illustration, le livre le plus lu dans le monde anglophone après la Bible, je ne sais pas si vous savez, le livre le plus lu dans le monde anglophone, je corrige, dans le monde anglophone, après la Bible, c'est l'histoire Le Voyage du Pèlerin, par John Bunyan. Le Voyage du Pèlerin, c'est le titre en français, c'est un roman qui trace la vie chrétienne comme un pèlerinage vers Dieu, vers la cité de Dieu. Le héros s'appelle Christian. C'est un bon nom. Et Christian entreprend ce pèlerinage parce que la ville où il habite sera détruite. Et parce qu'il porte sur son dos un fardeau, un sac qu'il ne peut pas enlever, un fardeau qui l'écrase. Alors il commence son chemin avec ce fardeau sur son dos, péniblement, difficilement. Et à un moment donné, sur le chemin, Christian arrive devant une croix, là, au bord de la route. Et alors que Christian contemplait la croix, nous lisons dans l'histoire, que son fardeau tomba de dessus son dos et fut abîmé dans un gouffre profond, de sorte que Christian ne le revit plus jamais. Et ce fut alors que Christian ressentit une véritable joie et qu'il commença à s'écrier plein d'allégresse, il m'a donné le repos par sa tristesse, la vie par sa mort. Et Christian s'arrêta là quelque temps, s'étonnant au dernier point de ce que la seule vue de la croix l'eût ainsi déchargé de son fardeau. Et il ne cessait de la contempler en versant un torrent de larmes. Jésus nous enlève notre fardeau de péché. Et si on retourne à l'histoire, si Jésus ne parle pas de péché, voici ce qu'il dit à l'homme. Jésus lui dit, « Crois-tu au Fils de Dieu ?» Et l'homme répondit, « Et qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui ?» Tu l'as vu, lui dit Jésus, et celui qui te parle, c'est lui. Et l'homme dit, je crois Seigneur, et il l'adora. C'est beau. Retenons ce petit échange. Jésus est venu pour que les gens puissent le voir et l'entendre et l'adorer dans leur vie. La présence de Dieu dans leur vie. C'est pour cela que Jésus est venu. Et sa simple présence dans notre vie, c'est ça sa lumière. La foi, c'est l'assurance que Jésus est présent avec nous, par son esprit, parce qu'il a compassion, par sa grâce, et pas par nos efforts. Il est avec nous. À la fin de la journée, quand on fait le bilan, comme Ghislaine nous l'a décrit, quand on regarde ce que nous avons fait, on va se culpabiliser. On sait qu'on n'a jamais été assez conscient. On sait qu'on n'a pas fait ce qu'il fallait. Mais on n'est pas là pour faire une évaluation sur nous-mêmes. On est là pour nous rendre compte de la grâce de Dieu dans notre vie, de son pardon, sa compassion. sa direction. Et pour notre vie, on a les supports concrets. On a la Bible, on a nos moments de culte, notre communion fraternelle, on a les symboles du pain et du vin qu'on peut partager entre nous. Ce n'est pas que pour le dimanche matin, mais c'est dans le partage, dans la rencontre des chrétiens. On a le pain et le vin, symbole de la présence de Jésus. Ce sont les supports matériels. L'essentiel, c'est la relation spirituelle avec Jésus. L'écouter, le ressentir et le suivre, lui obéir. Un petit témoignage là-dessus, un témoignage parlant vient d'un moine carmélite du XVIIe siècle. Et le témoignage de ce simple moine a touché beaucoup de monde. Il s'appelait Frère Laurent de la Résurrection. Laurent, c'est encore un bon nom. Et selon l'histoire, Laurent, dans son monastère, rencontrait des difficultés en méditant lors de son oraison. Il avait du mal à prier. Alors il a commencé à regarder Dieu, durant ses temps de travail, comme un ami. En travaillant, il se rendait compte de la présence de Dieu, de la présence intime de Dieu avec lui. Il raconte, ce sont ses mots, « Je m'appliquais soigneusement le reste du jour et même pendant mon travail à la présence de Dieu, que je considérais toujours auprès de moi, souvent même dans le fond de mon cœur, ce qui me donna une haute estime de Dieu. » Et frère Laurent regardait Dieu comme un ami qui m'embrasse amoureusement, me fait manger à sa table, me sert de ses propres mains, me donne les clés de ses trésors et me traite comme tout, comme son favori. Comme un ami qui s'entretient et se plaît sans cesse avec moi, de mille manières, sans parler de son pardon. Frère Laurent commençait à travailler conscient de la présence de Dieu et cela l'aidait à prier conscient de la présence de Dieu. Et dans sa prière, il ressentait davantage la paix et la joie. Et c'est ce que le frère Laurent appelait pratiquer la présence de Dieu. Et son histoire, son exemple a touché beaucoup de monde jusqu'à aujourd'hui. C'est une expérience personnelle, mais une expérience simple, profonde. Et la présence de Dieu dans notre vie, on sait que c'est l'Esprit de Jésus en nous. Alors pour résumer, pour conclure, tout simplement Jésus, c'est la lumière du monde et qu'il guérit. Laissons-le nous guérir de notre aveuglement. Que Dieu nous pardonne aussi là où nous avons, dans notre aveuglement, blessé les autres. Et que Jésus guérit nos blessures. Et le pire, comme je l'ai dit, c'est être aveugle et ne pas le reconnaître. Que Jésus nous ouvre davantage les yeux à ce qu'il peut faire en nous. Et c'est à ce que nous pouvons faire pour lui, n'est-ce pas? En partageant sa compassion. Que nous lui confions le fardeau de notre péché. Et que Jésus nous libère par la foi. Lui qui fut crucifié pour nous et qui est ressuscité pour nous. Et que Jésus nous conduise dans sa présence, que sa présence soit notre lumière, une lumière que nous ressentons, une lumière que nous répandons. Amen.